Vous écoutez
RMC.
Mercredi 5 octobre.
L'info sur RMC.
Il est 7h, bon réveil sur RMC, c'est l'heure du journal présenté par Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Tout lui rappelle son viol. Témoignage RMC ce matin d'une victime agressée sexuellement chez elle à Soissons. C'était dimanche dernier. Valoriser les aidants. Ils sont 11 millions en France à s'occuper d'un proche. L'Assemblée nationale se penche sur la question aujourd'hui. In extremis, l'OM renoue avec la victoire en Ligue des Champions. Victoire 4-1 face au Sporting Portugal. Ce soir, c'est le PSG qui affronte Benfica.
Un témoignage RMC ce matin. La victime d'un viol à Soissons raconte son agression.
RMC vous le révélait en début de semaine. Cette femme de 58 ans a été violée par un réfugié afghan chez elle. Dimanche dernier, son après-midi a basculé alors qu'elle descendait les poubelles. Lucille Pascanet l'a rencontrée dans sa maison à Soissons dans l'Aisne.
Deux jours après, elle est encore sous le choc. Dans sa petite maison où elle nous reçoit, chaque recoin lui rappelle l'agression. Cet homme qui a surgi dans son entrée et qui s'est jeté sur elle.
Je l'entendais crier, j'avais peur. Et j'ai toujours peur. J'ai peur, je suis détruite, il m'a sali. Qu'est-ce qu'il faisait là ? J'en sais rien moi, mais pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ?
Depuis dimanche, elle ne cesse de s'interroger sur le profil de son agresseur, un réfugié afghan de 26 ans, déjà mis en cause pour viol il y a 2 ans. Alors désormais, elle n'espère qu'une chose.
Qui paye cher ? Je sais qu'il a déjà des antécédents. En plus, il était alcoolisé quand il m'a agressé. Qui paye cher et qui soit expulsé dans son pays après ? Mais qui soit jugé ici ? Qu'il soit jugé sévèrement. Sinon, je ne m'en remettrai pas.
En attendant un futur procès, impossible pour elle de rester dans cette maison pour l'instant. Elle préfère partir, se reconstruire auprès de ses proches.
L'agresseur avait été arrêté le jour même. Il est aujourd'hui mis en examen. À l'Assemblée nationale, ambiance chaotique hier lors des questions au gouvernement. Invective, tacle, huée. La présidente de l'Assemblée nationale a dû hausser la voix.
Nous avons 28 questions au gouvernement. Vous aurez largement le temps de vous exprimer. Je vous prie d'arrêter d'invectiver les orateurs, quels qu'ils soient.
Rappel à l'ordre nécessaire. Nos députés ont quand même réussi hier soir à voter une mesure phare du projet de loi sur l'assurance chômage. Elle permettra de moduler la durée de l'indemnisation en fonction de la situation sur le marché du travail. L'examen de ce texte se poursuit d'ailleurs aujourd'hui. Il sera notamment question de la très importante question des aidants. Ça concerne 11 millions de Français. S'occuper d'un proche pourrait devenir une vraie expérience à faire valoir sur le marché de l'emploi, dans le secteur du soin. Trop restrictif pour Raja. Cette mère de famille s'est occupée de son fils pendant plus de 10 ans. Caroline Philippe.
À la naissance de son premier enfant atteint d'une maladie génétique rare, Raja a dû mettre sa vie professionnelle sur pause.
C'était vraiment très dur physiquement et psychologiquement.
Et cette pause va durer 10 ans. Raja est aidante, elle s'occupe de son fils et gère tout.
J'ai tout appris sur le tas, à monter les dossiers. Il y a aussi une partie de coordination entre les différents professionnels de santé, beaucoup d'organisation. J'ai dû aussi être formée à des soins de gastrostomie, à des massages avec la kiné.
Toutes ces compétences, Raja aimerait les valoriser, surtout depuis qu'elle a retrouvé la vie active, mais pas forcément dans le secteur médico-social comme le prévoit le projet de loi.
Je ne me projette pas dans le médico-social. Pour moi, c'est surtout l'organisation, la planification, la gestion de projets qui vont m'intéresser.
Et les parcours d'aidants peuvent servir toutes les carrières. C'est ce que défend Morgan Hiron, délégué général du collectif Je t'aide.
Les aidants n'ont pas envie d'être la variable d'ajustement d'un système qui, effectivement, aujourd'hui est en pénurie, en tension. Ce qu'ils veulent, encore une fois, c'est avoir le choix. Les aidants ont énormément de compétences à valoriser et doivent avoir le choix dans leur vie professionnelle.
Les associations espèrent que les débats parlementaires élargiront la validation d'acquis à d'autres secteurs.
Caroline Philippe pour RMC. Bercy veut mettre la pression sur les fournisseurs d'énergie accusés de ne pas jouer le jeu avec les petites entreprises. Réunion prévue ce matin avec Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie veut leur faire signer une charte dans laquelle ils s'engageront à leur faire payer un prix raisonnable. Bruno Le Maire qui aura aussi un œil sur les centrales nucléaires. Un appel à la grève dès ce soir 21h. Les syndicats réclament une revalorisation des salaires en tenant compte de l'inflation. C'est ce que nous explique Thomas Planco, représentant CGT de la Fédération nationale des mines et de l'énergie.
On l'estime à 10% de la perte vis-à-vis de l'inflation cumulée depuis une dizaine d'années. Donc après, nous, effectivement, on est bien conscient de la situation de l'entreprise, mais pour autant, c'est pas les agents qui en sont responsables. Donc en fait, ça fait des années qu'on subit ça, et là, bah, la situation actuelle que subit, comme je le disais, tout le monde, hein, mais nous également, est très forte au niveau de l'inflation. Donc toutes les organisations syndicales là-dessus sont en phase pour dire qu'il faut compenser l'inflation des agents EDF qui assurent le service public de l'énergie chaque jour.
Même revendication chez Total, 3 raffineries toujours en grève, dont la plus grosse du pays en Normandie. Approvisionnement difficile, attention, plusieurs stations sont à sec, 1 sur 2 à Paris. Total a d'ailleurs mis une carte interactive pour suivre en direct là où il y a des pénuries, si vous souhaitez la consulter. Pour ceux qui prennent le train, ouverture il y a 1 heure de la vente des billets pour les fêtes de fin d'année. 9 millions de billets ont été mis en vente là ce matin. Et déjà, des prix qui déçoivent les voyageurs. Hein, on les a vus sur les réseaux sociaux et on y revient dans le journal de 8h.
7h05 sur RMC. En Ukraine, le recul de l'armée russe se confirme.
Désormais, des drapeaux ukrainiens flottent dans plusieurs villes qui étaient aux mains des Russes. Le président ukrainien a revendiqué des avancées puissantes de son armée.
Nous avons de bonnes nouvelles du front. L'armée ukrainienne progresse assez rapidement et puissamment dans le sud de notre pays dans le cadre de l'opération de défense actuelle. Des dizaines de villages ont été libérés de l'occupant russe cette semaine dans les régions de Kherson, Kharkiv, Luhansk ainsi que Donetsk. Et cette liste n'est pas terminée. Nos guerriers ne s'arrêtent pas. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que nous chassions l'occupant de toutes nos terres.
Pour permettre de continuer de mener à bien cette contre-offensive, les États-Unis envoient de nouveau une aide à l'Ukraine, aide militaire de 625 millions de dollars. Et puis la Corée du Sud et les États-Unis ont tiré 4 missiles hier soir en mer du Japon, réponse directe à la série de tirs menée par la Corée du Nord, dont celui qui est passé au-dessus du Japon hier. C'était une première depuis 2017.
En Ligue des Champions, l'OM a enfin débloqué son compteur.
Juste à temps, les Marseillais ont réussi à renverser le Sporting Portugal, victoire 4-1, premier succès de la saison sur la scène européenne, Florent Germain.
Oui, Marseille avait sûrement besoin d'un coup de pouce du destin pour enfin gagner un match dans cette Ligue des Champions. Face à une équipe du Sporting plombée par son gardien de but, l'OM s'est totalement relancé au plus grand bonheur d'un des buteurs du soir, à Minarit.
Ouais, enfin, ça pesait sur tout le monde, je pense. Et ce soir, le fait de prendre les 3 points, de dominer ce match, c'était important. Voilà, on a montré du caractère ce soir. Un match plein défensivement, offensivement, malgré ce premier but. Mais je pense qu'on a été cohérent dans l'ensemble du match.
L'OM voulait surtout prouver qu'il est à sa place en Ligue des Champions. Cette nette victoire rassure donc le coach marseillais Igor Tudor.
C'est une belle victoire qui manquait depuis un certain temps en Ligue des Champions. Elle nous donne du courage, de la confiance. C'était très important. C'est sûr que les victoires facilitent le progrès.
L'OM croit toujours en la qualification et ira donc défier la tête haute, le Sporting Portugal, à Lisbonne mercredi prochain.
Et ce soir, c'est le Paris Saint-Germain qui affronte Benfica Lisbonne. Coup d'envoi à 21h. Un match que Charles Magnin va suivre avec énormément d'attention.
À la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport 1, évidemment 21h. À 7h, on vous retrouve. À 8h d'ailleurs, tout à l'heure.
7h, c'est passé.
Il est 7h08. On retrouve Marguerite à 8h pour un prochain journal. Et puis tiens, si vous venez de nous rejoindre, je vous signale qu'évidemment, on retrouve Apolline dès demain sur RMC. Il est donc 7h08. Bon réveil.
RMC s'engage pour vous.
Avec Amélie Rosic. Bonjour Amélie.
Bonjour Charles.
Vous nous reparlez ce matin de cette maman à qui l'on a retiré la garde de sa fille.
Oui, souvenez-vous, Pauline nous avait contacté parce que sa petite Louise, 3 ans, avait été placée par l'aide sociale à l'enfance du Loiret. Un placement après une plainte de Pauline contre son ex-conjoint pour violence sexuelle sur la fillette. Depuis notre reportage, le tribunal d'Orléans a confirmé la mesure de placement, mais Pauline a obtenu le droit de voir Louise chez elle un week-end sur deux. Mère et fille ont pu se retrouver pour la première fois la semaine dernière.
C'est donc un dossier qui avance, Amélie, et ce matin, vous nous révélez de nouveaux éléments.
Oui, car suite à la diffusion de son témoignage, Pauline a reçu de nombreux soutiens sur les réseaux sociaux, notamment celui d'une ancienne assistante sociale. C'est un témoignage RMC que l'on vous propose d'entendre ce matin. Nous l'appellerons Émilie. Elle a accepté de nous raconter son parcours au service placement de l'aide sociale à l'enfance. Elle se souvient, tout juste diplômée, avoir dû arracher une fillette de 3 ans à sa mère.
Je me rappelle avoir physiquement dû prendre cette petite fille, la décrocher de sa mère. Et puis elle se rattrapait à une chaise et la décrocher de la chaise pour mettre cette petite fille dans ma voiture qui pleurait, qui comprenait pas ce qui se passait, qui comprenait pas pourquoi on l'a retirée de sa maman avec qui elle avait un lien si fort. Toute sa vie, cette petite fille, pour elle, j'aurais été la dame qui l'a enlevée à sa maman, quoi. Je pense qu'on a fait beaucoup plus de mal à cette famille ce jour-là, surtout cette petite fille, que de bien.
Émilie nous décrit un service composé de jeunes travailleurs sociaux âgés d'une vingtaine d'années, mal payés, sous pression d'une institution débordée qui n'a pas le temps de traiter les dossiers, un système qui conduit parfois à placer abusivement les enfants.
On a beaucoup, beaucoup de dossiers et c'est un peu l'usine à gaz, quoi. On voit très, très peu les situations. On est là pour placer, quoi. Enfin, c'est pas assez poussé. On place un peu à la volée. Moi, j'ai déjà vu que des rapports pouvaient être exagérés pour arriver à des fins de placement. Et moi-même, je pense avoir fait du tort dans certaines situations. Et je pense que si j'avais eu le recul à ce moment-là, le temps de me poser, pas 50 000 dossiers à rédiger derrière, bah peut-être que je me serais dit, bon, ok, avant de placer, il faudrait investiguer un peu plus. Il y a trop de situations où on intervient trop vite.
Émilie a tenu 5 ans dans ce service. Aujourd'hui, elle travaille auprès de personnes âgées.
C'est grave, hein, ce que raconte Émilie. Que répond l'aide sociale à l'enfance ?
Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas une aide sociale à l'enfance, mais des aides sociales à l'enfance qui dépendent chacune, en fait, des conseils départementaux. Nous avons donc sollicité celui de Haute-Savoie dont dépendait Émilie lorsqu'elle y travaillait. Son président nous a répondu par écrit en une phrase. Si quelqu'un a des faits à signaler, je cite, qu'il me les adresse ou les adresse au procureur de la République. Fin de citation. Sur le plan national, le sujet est en tout cas pris très au sérieux puisqu'une délégation aux droits de l'enfant vient tout juste d'être créée à l'Assemblée nationale. Elle a été réclamée depuis des années. Elle est chargée notamment de conduire des auditions et de rédiger des rapports précisément sur la question de l'aide sociale à l'enfance.
Et on compte sur vous. On va suivre, évidemment. Sur RMC, les suites de cette mission. Et puis plus globalement, si vous souhaitez contacter Amélie et son équipe, je vous rappelle l'adresse mail RMC pour vous, @rmc.fr pour envoyer un message à l'équipe d'RMC s'engage pour vous. Merci Amélie, il est 7h11 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Est-ce que les PME vont passer l'hiver ? Les prix de l'énergie explosent et le gouvernement promet de mettre la pression aux fournisseurs d'énergie. Pour le secrétaire général de la CPME, il y a urgence car le compte n'y est pas. Jean-Hugues Duménil est le témoin du jour dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
Charles Magnin.
7h14 sur RMC, RMC Story. Bon réveil à tous.
Le témoin RMC.
Le témoin RMC, c'est vous ce matin, Jean-Hugues Duménil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général de la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises. Les PME, qui seront au cœur d'une réunion aujourd'hui à Bercy, hein, Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher reçoivent les énergéticiens, les fournisseurs d'énergie, pour leur demander, je les cite, de jouer le jeu vis-à-vis des PME sur ces questions d'énergie. Qu'est-ce que vous espérez concrètement ?
D'abord, c'est pas un jeu, c'est une question de vie ou de mort pour tout un tas d'entreprises aujourd'hui. Et la situation, c'est que quand on est une PME en face d'un énergéticien, on n'est malheureusement pas en capacité de négocier. Et ce qu'on espère, c'est rétablir déjà une forme de relation commerciale normale.
Parce que vous dites vie ou mort, là. Il y a des PME aujourd'hui qui sont sur le point de mettre la clé sous la porte à cause de ces questions d'énergie. Là, on est sur du... il y a des renouvellements de contrats en ce moment.
Alors, il y a des renouvellements de contrats, effectivement. Il va y avoir un pic de renouvellements de contrats à la fin du mois de décembre. Donc là, pour beaucoup d'entreprises, ça va être une période absolument déterminante. J'ai un exemple qui nous est arrivé cette semaine. Une entreprise qui se trouve dans la Manche, qui fait du traitement d'eau usée, qui emploie une cinquantaine de salariés. Cette entreprise payait le mégawattheure à 72 euros. Aujourd'hui, l'énergéticien lui fait une proposition. S'il signe immédiatement pour une période de 3 mois, donc un engagement relativement court, 1825 euros. Et s'il s'engage sur 3 ans, ça passe à 900 euros. Donc vous voyez bien que là, il y a une forme de pression pour obtenir une signature immédiate à un prix de 900 euros, qui est peut-être le prix de marché aujourd'hui, mais qui ne sera pas le prix de marché dans 3 ans.
Et vous dites signer immédiatement, c'est-à-dire qu'on leur dit cette offre, elle est valable quelques heures seulement. Il faut signer tout de suite. Sinon
en général, c'est dans les 24 heures. Et là, il y a une menace de coupure de l'électricité dans les 10 jours qui viennent. Donc quand vous êtes une entreprise, vous n'avez quasiment pas d'autre choix de signer. Et dans certains cas, vous signez votre arrêt de mort.
Ça concerne des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'entreprises, là, cette question des renouvellements.
Nous, on considère aujourd'hui qu'il y a autour de 150 000 entreprises pour lequel, précisément, c'est une question de survie dans les mois qui viennent.
150 000 entreprises menacées.
Exactement.
Et alors, oui. J'imagine que vous avez alerté le gouvernement qui vous dit, on va recevoir les énergéticiens, leur demander des tarifs raisonnables. Ça veut dire quoi un tarif raisonnable pour une PME?
Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire un tarif supportable par l'entreprise. Ce qu'on considère, c'est que quand on double la facture, c'est une contrainte pour l'entreprise, mais c'est encore jouable. Par contre, ce dont on aurait besoin, effectivement, à minima, c'est qu'il y ait un engagement des énergéticiens pour proposer à toutes les entreprises, au moins 2 mois avant la fin de contrat, une offre pour qu'elles puissent réfléchir et s'engager en connaissance
de cause. Pour éviter le côté couteau sous la gorge, on est à quelques jours de la fin du contrat, il faut signer sous pression à un tarif exorbitant. Là, vous dites, faut nous prévenir avant, qu'on
exactement
ait le temps peut-être de faire jouer la concurrence aussi. Et puis, il y a aussi un peu de flou dans le message des autorités en ce moment. On a entendu Emmanuel Macron dire, notamment aux PME, si on vous propose un contrat avec des prix exorbitants, ne le signez surtout pas. D'un autre côté, on a Emmanuel Wargon, de la Commission de régulation de l'énergie, qui dit, si, il faut signer. Quel est le message que vous donnez aujourd'hui à vos adhérents? Là, j'ai une PME, on me propose un contrat à des prix exorbitants. Est-ce que je signe? Est-ce que j'attends?
Écoutez, c'est chaque entreprise qui doit déterminer en fonction de sa situation. Encore une fois, quand on vous menace de coupure et d'arrêter la fourniture, vous n'avez pas d'autre choix que de signer. Mais pour en revenir aux énergéticiens, ce dont on a également besoin, c'est que quand ils demandent un engagement dans la durée, je vous parlais de 3 ans il y a quelques instants, on ait également en parallèle un engagement de prendre en compte la diminution du prix du marché. C'est-à-dire que ça ne soit pas fixe pendant 3 ans, mais si le marché, le prix de l'électricité diminue, ce qu'on espère tous, à ce moment-là, il faudra que ce soit répercuté dans les tarifs auprès de l'entreprise. Ça, c'est absolument impératif. Et puis, ce qu'on attend des pouvoirs publics, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas, c'est qu'on obtienne un tarif réglementé, plafonné, de l'électricité et du gaz.
C'est-à-dire un bouclier tarifaire qui serait élargi aux PME. Pour l'instant, seules les toutes petites entreprises, c'est ça?
Les entreprises de moins de 10, qui font moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, effectivement, ont des prix de l'électricité qui sont plafonnés.
Et vous voudriez élargir ce...
On voudrait, ça se passe à Bruxelles, puisque c'est là que la discussion doit avoir lieu. Et aujourd'hui, malheureusement, force est de constater que les discussions ont échoué. Donc il faut à tout prix que le gouvernement insiste, fasse jouer tout le poids politique de la France. C'est une question, encore une fois, de vie ou de mort pour beaucoup d'entreprises.
150 000 entreprises, vous nous l'avez dit, c'est ce qu'on retient. 150 000 entreprises en difficulté, question de vie ou de mort dans les semaines qui viennent sur ces questions d'énergie. Merci Jean-Luc Duménil d'être venu alerter ce matin en direct sur RMC. Il est 7h18.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Plusieurs rendez-vous, 7h40. Est-ce qu'il y a une pénurie d'essence ce matin en France? Réponse avec Olivier Gantois, le représentant de l'UFIP, l'Union Française des Industries Pétrolières. Et on vous attend tout de suite au 32-16. C'est vous qui êtes nos yeux sur la route. Dites-nous ce matin si vous trouvez facilement du carburant en France. Et puis avant cela, l'économie, Emmanuel Le Chip dans un instant. Et puis on va se marrer. L'ami Arnaud Demange qui pirate le 32-16, ce sera juste avant le journal de 7h30.
Apolline Matin.
L'indiscret RMC.
Les indiscrets RMC à 7h19 avec le service politique représenté par Romain Cluzel. Bonjour Romain.
Bonjour Charles.
Le divorce est-il consommé entre Nicolas Sarkozy et les Républicains?
L'ancien président n'est plus vraiment le bienvenu chez LR à moins de 2 mois du congrès. Certains membres du parti appellent même à exclure Nicolas Sarkozy. C'est une question de clarté. Il a craché sur sa famille politique. La règle doit être la même pour tout le monde, tranche une élue. Ce qui est surtout reproché à l'ancien président, c'est son absence de soutien à Valérie Pécresse pendant la présidentielle. En plus de cela, selon l'Express, Nicolas Sarkozy aurait affirmé vouloir quitter LR si Bruno Retailleau en prenait la tête en décembre. Qu'il le fasse, je ne le retiendrai pas, rétorque le sénateur. L'entourage de Nicolas Sarkozy dément. Jamais il n'a prononcé cette phrase, nous assure un de ses proches. Alors, malentendu ou pas, des soutiens de Bruno Retailleau se félicitent de sa sortie. C'est super, les militants n'en peuvent plus de Sarko, balance l'un d'eux, satisfait de donner un coup de boost à sa campagne.
De son côté, Nicolas Sarkozy, lui, cultive plutôt l'ambiguïté.
Retraité de la vie politique, Nicolas Sarkozy marque sa distance avec la vie du parti. Il affirme ne pas vouloir voter lors du congrès du mois de décembre et il ne s'y rendra pas non plus, nous confie un de ses proches. De toute façon, il n'est plus adhérent à LR depuis l'année dernière, selon nos informations. Alors si jamais il souhaite finalement voter, il a jusqu'au 3 novembre pour se réinscrire. Ce combat ne l'emballe pas, admet un de ses confidents, mais ses détracteurs ne sont pas prêts à s'en débarrasser. Le parrain de la famille politique, ça reste Nicolas Sarkozy.
Les indiscrets politiques, tous les matins sur RMC avec Romain Cluzel.
RMC, Apolline Matin.
Charles Magnin.
7h23, bon réveil sur RMC et RMC Story. C'est l'heure d'Emmanuel Le Chypre.
Le Chypre d'affaires.
Emmanuel, on va faire un tour au distributeur avec vous ce matin, puisque plusieurs grandes banques vont mutualiser leur distributeur de billets. Il faut nous expliquer.
Alors, BNP Paribas, Crédit Mutuel et Société Générale avaient annoncé en octobre qu'elles étudiaient un projet de mise en commun de leur réseau d'automates bancaires en France. Eh bien, le projet entrera dans sa phase opérationnelle en début d'année prochaine. Alors, en pratique, ce partage va permettre aux clients des trois enseignes de bénéficier gratuitement d'un meilleur accès aux services proposés par les banques sur les distributeurs. Donc, évidemment, retrait d'argent, mais aussi dépôt d'espèces, dépôt de chèques aussi, consultation des comptes ou encore impression de RIB.
Et est-ce que je vais y gagner des sous dans cette histoire? Parce que bon, il y a des services, pourquoi pas, mais il me semble que ça me coûte cher si je vais retirer ailleurs que dans ma banque.
Oui, absolument. Les retraits d'espèces dans un distributeur automatique sont facturés par une très large majorité des banques quand vous allez dans une autre enseigne. En général, vous avez droit à 1, 2, 3 retraits gratuits par mois. Puis après, c'est 1 euro quand même par retrait. Et ça fait au final 1 milliard de retraits quand même enregistrés par an. Donc je vous laisse imaginer ce que ça représente comme coût. Il y a 1 milliard de retraits par an dans nos distributeurs. Et sachant que ces trois groupes représentent quand même 40% de l'offre d'accès aux automates, plus des services en plus, parce que quand vous voulez déposer un chèque, par exemple, bah, si vous allez le déposer dans une autre agence que celle de votre banque, aujourd'hui, c'est pas possible. Et ça, ce sera quand même beaucoup plus simple.
Est-ce que ça risque pas, à terme aussi, de déboucher sur une réduction du nombre de distributeurs?
Alors, sur ce point, la Banque de France, qui est la gardienne, de tout ça, eh bien, elle a obtenu des garanties de la part des banques, notamment dans les zones rurales. Et c'est vrai que le nombre de distributeurs ne cesse de diminuer. 47 853 DAB, en fin d'année 2021. C'est 10% de moins qu'à la fin 2018. Et puis, autre annonce importante, j'en profite, hier, de la Banque de France pour faciliter l'accès aux distributeurs des personnes en difficulté de mobilité, aux personnes handicapées. Des distributeurs moins hauts et surtout préconisation aussi de revenir sur, vous savez, les distributeurs sont tactiles maintenant et c'est vrai que pour les personnes malvoyantes, bah, c'est plus compliqué d'usage que les touches
avec le braille,
avec justement le braille, etc. Donc voilà, meilleur service aussi pour les personnes handicapées en perspective.
Annonce importante signée Emmanuel Le Chypre ce matin. Manu, je sais que tu l'attends, t'es impatient. Et oui, c'est l'heure d'un dimanche.
RMC Apolline Matin.
Attention.
Demanche pirate le 32-16.
Attention. Arnaud Demanche qui pirate, oui, le 32-16. Et ce qui fait réagir, bonjour d'abord.
Bonjour Apolline. Non mais je suis désolé. Chut, on va faire comme si les auditeurs n'avaient rien vu. Détachez vos cheveux, mettez une veste rose en velours.
Tiens, si vous me trouvez une veste rose, promis, je détache mes cheveux à 8h20 tout à l'heure. Rendez-vous est pris. En attendant, ce qui fait réagir ce matin, Arnaud, c'est l'Arabie Saoudite qui vient de remporter l'organisation des Jeux Asiatiques d'hiver en 2030.
Eh oui. Et oui, et on a un message de Jean-Marie Le Pen à ce sujet qui nous dit « Écoutez, il n'est pas tout à fait incongru !» Je suis toujours pas imitateur. Hein. Si vous attendez une voix parfaite, vous perdez votre temps. « Écoutez, il n'est pas tout à fait incongru que l'Arabie Saoudite organise des Jeux d'hiver. Les bronzés vont enfin faire du ski !» Et oui, non mais il y a du soleil là-bas, on bronze, hein, c'est pas moi. Hein. Catherine de Grenoble nous dit « Bah, il n'y a pas de montagne en Arabie Saoudite. » Non, mais il y a des montagnes de pognon. Eh ben, ça suffit parfois. Et Loïc, qui est commentateur sportif, est déjà enthousiaste, puisqu'en ce moment, on est en plein championnat mondial de l'idée à la con. Une très belle compétition. Les Jeux d'hiver de l'Arabie Saoudite sont en train de revenir sur la Coupe du Monde de foot au Qatar, talonné par le Paris-Dakar en Argentine et le Tour de France au Danemark. Alors qu'on aperçoit la Sibérie en train d'organiser un championnat mondial de golf, le Tibet qui veut organiser une compétition de jet ski, l'Iran prépare une compétition de planche à voile islamique, vont-ils être détrônés par les mondiaux de sculpture sur glace au Cameroun? Bref, beaucoup d'idées à la con sont en concurrence. Laquelle va gagner? On ne sait pas encore, mais le suspense est total. À vous, Paris!
Suspense total et rendez-vous à 8h20 tout à l'heure, Arnaud.
Exactement.
Avec un petit suspense capillaire, c'est ça, sur mes cheveux et ma tenue. Tout à l'heure, rendez-vous 8h20 avec Arnaud, 7h27 sur RMC. Bon réveil sur RMC et RMC Story. Il est 7h30, c'est l'heure d'un nouveau journal présenté par Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous. La crainte d'une pénurie de carburant avec la grève qui continue chez Total. La moitié des stations-service à sec autour de Paris. 9 millions de billets de train en vente ce matin à la SNCF pour les fêtes de fin d'année. Mais déception des usagers, pas vraiment de bonnes affaires, vous l'entendrez. Et puis les compteurs Linky à la une ce matin. Pourquoi ? Parce que Enedis va pouvoir couper votre ballon d'eau chaude cet hiver via les compteurs Linky en cas de pic de consommation.
On commence avec ce constat ce matin sur RMC. Très compliqué de faire le plein en ce moment autour de Paris.
Avec la grève, oui, qui se poursuit chez Total. Trois sites à l'arrêt, dont la raffinerie de Normandie, la plus grande de France. Conséquence, les stations sont parfois à sec. Une sur deux est hors service autour de Paris. La preuve avec Alfred Orange et Mao Baker-Granier qui ont pris une voiture RMC, une voiture sur la réserve d'ailleurs, et qui ont eu un mal fou à faire le plein.
On a pris le périph', on est à la recherche d'une station ouverte. Là, donc, première station, il n'y a pas de prix affiché sur les écrans. Et on est dans une impossibilité de payer, on ne peut pas payer non plus, donc je pense qu'il n'y a pas d'essence.
Monsieur, racontez-nous, on cherche de l'essence, on n'arrive pas à en trouver, et vous ?
Ben, moi aussi, je suis en train de chercher une pompe qui a de l'essence. Moi aussi, je trouve pas, vous voyez, là, je suis à sec, là, vous voyez. Je ne sais pas où je vais trouver.
On a une deuxième, juste à droite. Ah, elle est fermée aussi, il y a carrément les... des rubans pour montrer, on peut même pas y accéder. Ah voilà, celle-ci, elle est ouverte. Il y a des dizaines de voitures qui font la queue.
Alors là, on est à Vélizy, Villa Coublet.
Ouais.
Et du coup, je suis venue chercher de l'essence parce que je viens de Trappes et j'avais pas de station.
Ah voilà, j'ai fait le circuit là. Hein. J'ai fait Meudon, Clamart, Meudon-la-Forêt et me voilà.
Et là, ça revient plus cher quand même ou pas ?
Alors là, elle est 10 centimes de plus que là où je la payais chez Total.
Après 5 stations fermées, on a enfin pu en trouver une d'ouverte. Ça nous a pris 1h30 de recherche et 15 minutes d'attente.
Et aujourd'hui, ce sont les centrales nucléaires qui seront touchées par un mouvement de grève. Ça commencera ce soir, 21h, ça va durer 24h à l'appel d'une large intersyndicale. Mouvement, là encore, qui porte sur les salaires. Il y a de la déception, ce matin, je vous le disais, chez les usagers de la SNCF. Et ils sont de plus en plus nombreux avec une fréquentation record dans les trains. Pourquoi de la déception ? Parce que la SNCF vend depuis 6h à peu près ce matin 9 millions de billets de train pour les fêtes de fin d'année. Il y a quelques bonnes affaires, mais dans l'ensemble... Eh bien, ce sont des prix classiques, notamment pour le week-end de Noël, qui n'est pas du tout bon marché. Premier témoignage ce matin sur RMC, celui d'Ingrid. Elle s'est levée exprès très tôt ce matin pour réserver ses billets de train. Elle pensait faire de bonnes affaires. Pas du tout, donc elle a payé une petite fortune pour son trajet entre Toulouse et Grenoble.
Là, effectivement, la surprise, c'est que les billets de train sont déjà à 6h du matin, à plus de 180 euros. En comptant juste moi, mon fils et ma fille qui a même pas 4 ans, donc qui ne paye pas. Je m'attendais plus à des petits prix d'appel entre 25 et 40 euros par personne. Finalement, c'est les mêmes prix qu'à l'année. J'avoue que je suis un peu frustrée et dépitée. Je suis pas retournée me coucher. La journée va être longue.
Voilà, et on en reparlera tout à l'heure dans le journal à 8h. Les énergéticiens ont rendez-vous 8h15 ce matin. Bercy, EDF, Engie, Total Energy. Pour se faire taper sur les doigts, le gouvernement leur reproche de gonfler les prix qu'il propose aux PME. Et dans un contexte de tension sur l'énergie, on apprend qu'Enedis va donc pouvoir contrôler à distance la consommation de ses clients via les compteurs Linky. Ça va apporter de l'eau au moulin de tous ceux qui sont contre. Ça commencera à mi-octobre. Enedis va en fait pouvoir couper l'eau chaude de certains clients qui ne s'en apercevront pas forcément. Écoutez les explications de Bettina de Guillemot pour RMC.
Concrètement, si vous êtes un client Enedis muni d'un compteur Linky avec un contrat heure creuse, heure pleine, l'alimentation électrique de votre ballon d'eau chaude sera interrompue entre midi et 14h. Cette mesure sera gênante uniquement si vous videz votre ballon d'eau chaude entre ces 2h à la mi-journée. L'eau chauffée aux heures creuses reste stockée à température dans le ballon. Grâce à cette mesure, les économies d'énergie ne sont pas négligeables. RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, a fait le calcul. Couper l'alimentation des ballons d'eau chaude à 12h30 pourrait permettre d'économiser jusqu'à 2,5 gigawatts de puissance, soit l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires. Cette coupure programmée durera 6 mois, du 15 octobre au 15 avril.
La tension était redescendue d'un cran hier soir à l'Assemblée nationale après le brouhaha de l'après-midi au sujet des affaires Quatennens scolaires Dupond-Moretti aussi. Les députés ont voté dans la soirée la mesure phare du projet de réforme de l'assurance chômage qui permettra de moduler la durée d'indemnisation en fonction de la situation sur le marché du travail.
Et la bataille des retraites s'annonce compliquée pour Emmanuel Macron. Les communistes veulent un référendum.
Via ce qu'on appelle une motion référendaire qu'ils entendent déposer, dispositif qui permettrait aux députés de laisser le choix aux Français, à condition bien sûr d'avoir la majorité, comme nous l'explique le député communiste Sébastien Jumel, qui est à l'origine de cette proposition.
7 Français sur 10 sont opposés à cette réforme de la retraite parce qu'ils ont compris qu'elle est injuste. On n'a pas les mêmes points de vie en bonne santé quand on a fait sa carrière chez Rothschild ou quand on est aide-soignante ou aide à domicile. Si on recule l'âge de la retraite pour ces gens-là, c'est la retraite pour les morts, comme disait la CGT en 1910. Eh bien, puisqu'il y a débat, puisque c'est une question fondamentale, question simple, au peuple français, voulez-vous, oui ou non, voir l'âge de la retraite reculer ? Et moi, je suis sûr de la réponse du peuple français.
À 7h36, on apprend ce matin que la police évacue le campement de Forceval. C'est au nord-est de la capitale, campement où sont regroupés depuis un an les consommateurs de crack, annonce du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, 1000 policiers mobilisés. C'est peut-être l'étude qui va faire changer les mentalités dans le rugby. On sait depuis maintenant longtemps que c'est un sport de contact, qu'il présente des dangers, mais ce matin, il y a cette étude très sérieuse réalisée en Écosse. Rémi Ing pour RMC, elle nous apprend qu'un joueur international a 2,5 fois plus de risques que le reste de la population de présenter des maladies neurodégénératives.
Effectivement, à cause évidemment des chocs violents que les joueurs subissent, c'est même 15 fois plus de risques de développer une maladie de motoneurone. C'est un type de maladie dégénérative qui entraîne une paralysie progressive. Le risque de développer une maladie de Parkinson est également 3 fois plus élevé. Constat donc d'une équipe de chercheurs de l'université de Glasgow en Écosse. Étude qui s'est penchée sur le cas de 412 anciens internationaux de rugby qu'ils ont comparé à 1200 personnes lambda. Effet notable, la plupart des joueurs étudiés étaient des amateurs. Le rugby n'est devenu qu'un sport professionnel que depuis 1995. Un risque donc accru pour les près de 250 000 licenciés en France. Le chercheur qui a dirigé l'enquête qui préconise de prendre des mesures comme réduire la durée des saisons. Il cite aussi l'exemple des footballeurs américains qui ont décidé de réduire les contacts à l'entraînement.
Et puis le match France-Portugal qui tourne à l'avantage de la France en Ligue des Champions de football. Marseille qui s'est relancé hier soir en gagnant son premier match dans la compétition. 4-1 contre le Sporting dans un vélodrome à huis clos. Et Paris qui sera ce soir chez le Benfica, 21h sur RMC à la radio, RMC Sport 1 à la télé.
Oui, belle victoire de l'OM hier soir. Et tiens, supporters marseillais, je vous signale qu'à 8h10, Laurent Tapie sera avec nous en direct sur RMC un an après le décès de son père. Il lance une souscription. Il appelle les supporters à financer une statue hommage à Bernard Tapie. Il nous expliquera tout à 8h10 sur RMC. Mes supporters marseillais, n'hésitez pas à composer tout de suite le 32-16. Et puis le Quintet Quentin, aujourd'hui, c'est à Laval.
Le 14 et le 5, en début d'après-midi, à 13h50 sur RMC Découverte. 14-5, pronostic de la Dream Team des courses RMC. Favori Elite Bouffour, le 14. Le 5, Diego Le Cao en outsider.
C'était le journal de Quentin Vinet. On l'a entendu dans votre journal, Quentin. C'est la galère ce matin pour faire le plein à Paris, mais un peu partout en France. Olivier Gantois vient de s'installer dans ce studio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'Union française des industries pétrolières. Alors, faut-il craindre une pénurie ? Votre réponse dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
Charles Magnin.
7h41 sur RMC. Bon réveil à tous.
L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est vous, Olivier Gantois. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'UFIP, l'Union française des industries pétrolières. Vous représentez les fournisseurs de carburant, notamment Total. Total où la grève continue. On est à 9 jours consécutifs de grève, des salariés qui demandent de meilleurs salaires. Il y a aussi 3 sites qui sont toujours à l'arrêt, dont la plus grande raffinerie du pays en Normandie. Et il y a un mot qui est à la une un peu partout ce matin, c'est le mot de pénurie. Est-ce qu'on est en pénurie de carburant ?
La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas en pénurie de carburant. Pourquoi ? Parce que malgré les événements que vous avez cités, en fait, ce qui s'est passé, c'est que presque instantanément, les opérateurs concernés ont augmenté leurs importations de carburant. Il faut dire que la France importe en permanence des carburants. Donc, une fois que le flux d'importation est en place, c'est plus facile de l'augmenter que si jamais on n'en importait pas.
Alors, vous nous dites qu'on a du carburant en France, mais les automobilistes ont du mal à le trouver à la pompe. On va accueillir Valentin tout de suite au 32-16. On est dans le Nord, c'est ça, avec vous, Valentin. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors Valentin, on va être sur la route avec vous. Est-ce que vous avez trouvé facilement du carburant ce matin ?
Bah écoutez, moi je vais vous expliquer ma situation. Du carburant, j'ai du mal à en trouver depuis globalement samedi, quoi.
C'est-à-dire ?
Alors, c'est-à-dire que, avant, samedi dimanche très compliqué dans dans toutes les stations Total à proprement parler, hein, parce que bon, on voit avec la ristourne supplémentaire qui a été appliquée par Total, c'était déjà depuis quelques semaines la ruée sur cette station là et donc des stations qui étaient vides mais réapprovisionnées, je dirais, le lendemain ou le surlendemain. Là, depuis dimanche, mon épouse a essayé de faire le plein de sa voiture, impossible dans une station Total. Et depuis dimanche, moi, ce que je vois, c'est que le phénomène s'étend même aux stations au niveau des distributeurs, quoi, que ce soit des marques de grands distributeurs, Intermarché ou autres stations. Moi, j'ai 50 km pour aller travailler. J'ai 6 stations, que ce soit Total et ou grand distributeur sur le trajet. Je peux vous dire que ce matin, hier, elles étaient déjà toutes vides et ce matin, c'est encore le cas.
Merci Valentin, c'est très concret. Donc Olivier Gantois, vous nous dites, on a du carburant en France et Valentin nous dit, là, je viens de faire 6 stations, j'en ai pas trouvé. Où est-ce que ça coince ?
Ça coince certainement quand à certains moments, vous avez un afflux de clientèle dans certaines stations et on l'a observé notamment chez le distributeur que vous mentionnez. Mmh. Il faut dire que les différentiels de prix dont on parlait étaient énormes.
C'est 20 centimes de moins, on va le dire.
Hein, 20 centimes, alors que d'habitude, le client change de station pour 1 ou 2 centimes.
Mais ça veut dire que Total a été trop gourmand, en tout cas a fait une promesse que Total n'est pas capable de tenir en termes d'approvisionnement de carburant ?
Non, mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que rapidement, les clients mettaient la station à sec, parce que c'est normal que les clients aillent là où c'est
moins cher. Ça, on pouvait l'anticiper quand on est 20 centimes moins cher que
les
autres.
Et du coup, ils allaient dans la station oui, d'à côté.
Et donc là, on entend bien qu'il n'y a pas que chez Total, avec Valentin, qu'on commence à avoir du mal à trouver des carburants. Il y a en plus ces grèves dans les raffineries. Il n'y a pas de risque dans les jours qui viennent que ça s'aggrave ?
Nous, on ne voit pas de pénurie arriver. Du fait justement des flux d'importation qui ont augmenté considérablement, notamment les importations de gazoil, on ne voit pas de pénurie arriver.
Donc c'est l'acheminement qui coince ? Parce que vous nous dites, on a le pétrole, il est quelque part, mais il n'est pas dans les stations. Donc c'est...
De temps en temps, il y a un problème ponctuel, mais je peux vous garantir que quand on regarde l'ensemble du territoire national, il n'y a pas de pénurie.
Il n'y a pas de pénurie, et donc pas question de parler des stocks stratégiques. On commence à entendre ce mot en ce moment. On a des stocks stratégiques en France, pas question d'aller puiser dedans pour alimenter les stations qui sont à sec en ce moment.
Ah ben non, pas du tout, parce que les stocks stratégiques qui représentent à peu près 3 mois de consommation de carburant en France sont là pour parer à des crises internationales, des crises pétrolières internationales, pas à la grève d'une ou deux raffineries.
Donc c'est pas une crise quand on trouve plus de carburant le matin quand on veut aller bosser. On n'est pas en situation de crise.
Ah ben peut-être que pendant quelques jours ça va être tendu et peut-être qu'il va falloir aller un petit peu plus loin pour trouver du carburant, mais il n'y a pas de pénurie actuellement généralisée.
C'est tendu, mais c'est pas la crise, pour résumer ce que vous nous dites ce matin.
Ça revient quand même un peu à ça.
D'accord, c'est très subtil, mais bon, pour l'automobiliste, il faut quand même faire quelques kilomètres, voire des dizaines de kilomètres supplémentaires ce matin pour trouver du carburant. Et puis, à quel prix ce carburant ? On va regarder un peu le long terme. Maintenant, à la pompe, on voit que les prix commencent doucement à remonter depuis quelques jours. Le prix du baril est repassé au-dessus des 90$. Et puis aujourd'hui, il y a une réunion de l'OPEP, hein, les pays producteurs de pétrole. Et avant même cette réunion, il y a cette rumeur qui nous dit que ces pays pourraient annoncer une réduction drastique de la production. Est-ce que vous avez d'autres infos ? Vous avez entendu aussi cette rumeur ? Est-ce que ça veut dire que les prix vont mécaniquement remonter dans les jours qui viennent ?
Alors, je ne dispose que des rumeurs seulement. Je peux les commenter et apprécier lesquelles sont sérieuses.
Oui, elles sont sérieuses.
Oui, pourquoi ? Parce que donc, l'OPEP se réunit chaque mois, en tout cas depuis l'époque du Covid. Mmh. Et chaque mois, l'OPEP décide de l'évolution de la production le mois suivant. Depuis les déconfinements de mai 2020, chaque mois, l'OPEP augmentait graduellement la production. Leur objectif, c'est quand même de maintenir les cours, c'est-à-dire de s'assurer qu'il n'y a pas de surplus de production pétrolière dans le monde. Donc ça a augmenté chaque mois jusqu'au mois de septembre. À la dernière réunion où ils ont décidé de ce qu'ils faisaient en octobre, pour la première fois depuis 2 ans et demi, ils ont décidé de baisser leur production légèrement, 100 000 barils par jour, mais symboliquement c'était important. D'ailleurs à l'époque, ça a déjà fait remonter un peu les prix. Et là, il est question, mais alors là, j'ai pas d'informations privilégiées, il est question d'une baisse de la production, donc en novembre, qui serait encore plus importante que les 100 000 barils par jour d'octobre. Et les marchés ont déjà réagi, puisque le prix du brut a pris 10% depuis qu'il y a eu cette espèce de rumeur.
On a déjà réagi aux rumeurs, et ça pourrait réagir encore plus s'il y a des annonces aujourd'hui. Ça met combien de temps ensuite à se répercuter à la pompe, ce type d'annonce ?
C'est quasiment instantané. Ça, c'est la concurrence entre distributeurs en France qui fait que les variations des prix du pétrole brut sont répercutées quasiment instantanément.
Ouais, l'automobiliste a l'impression que quand c'est à la hausse, ça se répercute plus vite que quand le baril baisse.
Mais ça n'a pas été le cas puisque justement on a eu une forte période de baisse du baril depuis le début de l'été. On a commencé l'été à $120 le baril, on a terminé la semaine dernière à $84 le baril et on a bien vu que les baisses étaient répercutées très rapidement pendant cette période-là.
J'ai une dernière question Olivier Gantois, parlons des profits et même des super profits qui sont au cœur des débats en ce moment. Et hier c'est le patron de Shell en personne qui a appelé, je cite, à taxer davantage les entreprises énergétiques pour protéger les plus pauvres face à la crise de l'énergie. Est-ce que c'est aussi la position de l'UFIP, de l'Union française des industries pétrolières? Est-ce qu'il faudrait plus taxer les pétroliers?
Alors, je vais vous dire, l'UFIP n'est pas législateur et en l'occurrence, c'est le législateur qui décide des taxes à la hausse ou à la baisse ou d'en créer des nouvelles. Donc, le législateur européen, manifestement, a décidé de créer une taxe, en tout cas de demander au gouvernement de créer, alors c'est pas une taxe, c'est une contribution volontaire.
Oui. Bon,
admettons, mais de la créer. Nous, on a trois points. Le premier, c'est que il faut respecter le principe de la territorialité de l'impôt, c'est-à-dire que c'est là où les profits sont réalisés qu'on peut taxer. Or, les profits de nos adhérents, par exemple, sont essentiellement réalisés hors France, voire hors Europe.
Oui, pour prendre l'exemple concret de Total.
Voilà.
Les bénéfices de Total ne sont pas réalisés en France.
Voilà. La deuxième chose, c'est que pendant le Covid, au moment où la demande s'est effondrée, les prix se sont effondrés, les marges de raffinage se sont effondrées, nous avons continué à approvisionner la France. À ce moment-là, on perdait notre chemise, personne ne nous a rien donné et nous n'avons rien demandé. Donc, nous demandons à ce qu'il y ait une compensation, c'est-à-dire qu'on tienne compte des pertes d'hier pour compenser les profits d'aujourd'hui.
Merci Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières, d'être venu faire le point ce matin avec nous. Vous nous dites pas de pénurie, mais vous reconnaissez, on va dire comme ça, des tensions ce matin dans l'alimentation en carburant, dans les stations un peu partout en France, pas que chez Total, nous disait Valentin à l'instant, ça commence à être la galère un peu partout. Vous reconnaissez un risque, on va le dire comme ça, dans l'approvisionnement des stations dans les jours qui viennent. Vous nous dites tension, mais pas crise. C'est très subtil, mais pour l'automobiliste ce matin, c'est des kilomètres en plus et des files d'attente pour trouver du carburant. Il est 7h49 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Le mouvement MeToo à 5 ans. Qu'est-ce qui a changé depuis 2017? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Les explications de Nicolas Poincaré, c'est tout de suite sur RMC.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC avec Sébastien Krebs. C'est un grand retour, celui de Dépêche Mode.
Oui, gros comeback, vous vous souvenez, Enjoy the Silence, c'était en 1990, gros succès de ce groupe britannique pionnier de l'électropop, 100 millions de disques vendus dans le monde, et bien Dépêche Mode est de retour. Le groupe a perdu l'un de ses membres fondateurs il y a quelques mois, mais les deux autres ont décidé de continuer. Nouvel album au printemps prochain, ce sera le 15e, tournée des stades avec des concerts à Bordeaux, à Lille, à Lyon, à Paris, ce sera au Stade de France en juin 2023.
RMC, Apolline Matin,
Charles Magnin.
Il est 7h53, c'est l'heure des explications.
Expliquez-nous.
Avec Nicolas Poincaré sur RMC. Nicolas, il y a 5 ans, jour pour jour, naissait le phénomène MeToo. Un article du New York Times dénonçait les crimes sexuels du producteur de cinéma Harvey Weinstein.
Oui, c'est une date qui va sans doute rester dans l'histoire. Le 5 octobre 2017, un article retentissant paraissait dans le New York Times. Il accusait Harvey Weinstein, le producteur le plus célèbre d'Hollywood, de viol et d'agression sexuelle sur plusieurs actrices. Quelques jours plus tard, un second article, plus accusateur encore, est publié par le New Yorker, signé cette fois par Ronan Farrow, le journaliste qui est aussi le beau-fils de Woody Allen. L'affaire a aussitôt un retentissement mondial. Le hashtag MeToo est lancé le 15 octobre par Alyssa Milano, l'actrice italienne, elle-même victime d'Harvey Weinstein. Et les témoignages se multiplient. À la fin du mois d'octobre, on recense déjà environ 90 femmes qui disent avoir été agressées. Parmi elles, les plus grandes stars du cinéma, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Salma Hayek, ou bien les Françaises Emma Decaune, Judith Goldrèche ou Léa Seydoux. Les faits se sont passés à Los Angeles, à New York, à Paris, à Cannes, chez lui, dans des chambres d'hôtel, dans des voitures.
Et d'ailleurs, lorsque tous ces témoignages sortent, Harvey Weinstein ne conteste pas les accusations.
Non, très vite, il présente des excuses et il se met en retrait. Il est renvoyé par son frère de leur société de production. Et 2 ans plus tard, il est jugé à New York. Weinstein est condamné à 23 ans de prison ferme et aussitôt incarcéré à la terrible prison de Riker Island à New York. Il n'a pas le droit de demander une liberté conditionnelle avant septembre 2039. Il aura alors 87 ans, sauf qu'il attend aussi un autre procès en Californie où il risque 140 ans de prison pour plusieurs viols. Et les Anglais demandent aussi à le juger pour plusieurs faits. Bref, Weinstein risque bien de mourir en prison.
Et c'est donc cette affaire qui a déclenché le mouvement MeToo. Depuis 5 ans, la parole s'est libérée partout dans le monde. Est-ce qu'en France, une affaire peut être comparée à cette affaire Weinstein?
Oui, à mon avis, une seule, c'est l'affaire PPDA. Comparable d'abord par le nombre de témoignages, 90, on vient de le voir dans l'affaire Weinstein, 90 aussi dans l'affaire Poivre d'Arvor, 90 femmes qui se sont manifestées auprès du collectif des plaignantes, d'après le dernier décompte de la journaliste Cécile Delarue, qui est une des coordinatrices de ce comité. L'écrivaine Florence Porcel a recensé 19 plaintes, dont 9 pour viol, dont un viol sur mineur. 31 femmes ont été entendues par la police, mais à ce décompte, il faut encore ajouter les 2 dernières plaintes qui ont été reçues la semaine dernière par les enquêteurs.
Et la journaliste Hélène Devinck dénonce l'impunité dont bénéficie PPDA.
Oui, l'impunité, c'est le titre de son livre. Hélène Devinck, qui a elle-même porté plainte pour viol, fait parler des dizaines de victimes. La plupart sont journalistes ou écrivaines, plusieurs étaient anorexiques, beaucoup étaient fragiles, et les faits se sont souvent déroulés dans le bureau de PPDA à TF1. Les témoignages recueillis dans ce livre sont terrifiant et accablant. Hélène Devinck raconte l'humiliation, la sidération, la violence et la difficulté de témoigner à cause de la puissance, de l'influence de l'entregent du présentateur vedette.
Ajoutons à cela que la plupart des faits dénoncés sont couverts par la prescription.
Et oui, c'est la grande différence entre l'affaire Weinstein et l'affaire Poivre d'Arvor. Il n'y a pratiquement plus de prescription aux États-Unis en matière de crimes sexuels, et en tout cas plus du tout en Californie, alors qu'en France, la justice a jugé que presque toutes les plaintes déposées contre PPDA concernaient des faits trop anciens pour être jugés, toutes sauf une déposée par l'écrivaine Florence Porcel, qui est actuellement instruite par 2 juges d'instruction. Mais au printemps dernier, la Cour d'appel de Versailles a demandé à ses juges d'élargir leur enquête en évoquant la sérialité des faits. C'est-à-dire que si l'on a un auteur unique, un mode opératoire similaire et un même profil de victime, alors la sérialité peut annuler la prescription. On en est donc là, le dossier n'est pas clos juridiquement. Il faut rappeler que Patrick Poivre d'Arvor n'est pas mis en examen, qu'il est présumé innocent, qu'il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il les conteste tous, autrement dit, il affirme avoir affaire à 90 menteuses.
Expliquez-nous, Nicolas Poincaré, c'est à retrouver tous les matins en direct à 7h50 sur RMC. Et quand vous le voulez, en podcast sur l'appli RMC. Dans un instant, le journal de 8h, Marguerite Dumont, avec à la une les fournisseurs d'énergie qui sont convoqués aujourd'hui à Bercy pour parler de l'avenir énergétique de nos PME.